Moi, je m'appelle Patricia, je travaille à la DMR de Bapaume. Je suis auxiliaire de vie depuis 20 ans et j'assure la continuité des services auprès des personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, pour les actes essentiels à la toilette, repas, lever, coucher.
Je m'appelle Amandine, je suis aide-soignante dans une EHPAD, c'est-à-dire je leur donne à manger, je fais leur toilette. Je les accompagne en fait pour tous les gestes de la vie quotidienne.
Donc je m'appelle Christine, je suis consultante indépendante et parmi mes activités, je fais des intérims de direction en établissements médico-sociaux et en l'occurrence depuis quelques mois, je fais un intérim de direction dans un EHPAD de la région parisienne.
Je suis une femme bien entendu de 57 ans bientôt. Je suis employée de maison, maison avec un S, puisque j'ai plusieurs employeurs. Et en même temps, dans ces employeurs, je suis employée de pharmacie.
Je suis Guylaine, je suis formatrice en école d'infirmiers dans le Nord.
Je suis infirmière dans un service de Covid. Je suis infirmière au bloc depuis 17 ans, un bloc pluridisciplinaire dans un milieu hospitalier. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, voilà.
Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, les femmes représentent presque 70% des forces de travail dans la santé à travers le monde. Elles sont donc en première ligne pour mener la bataille contre le Covid-19. Elles assurent en outre la majorité des tâches domestiques et d'éducation auxquelles s'est ajoutée l'école à distance et parfois le soin à un parent âgé. Elles sont pourtant moins représentées dans les instances de décision du secteur de la santé et du soin et ont un salaire en moyenne moindre du fait de l'accès restreint à certains postes valorisés. On s'aperçoit avec la crise sanitaire que les travailleuses font tourner les rouages des services vitaux. Elles sont aides à domicile, aides-soignantes, auxiliaires de vie, infirmières. Elles sont au cœur du conflit entre les besoins collectifs et l'exigence de profit. Elles témoignent de leurs expériences depuis le début de l'épidémie, avec différents niveaux de risque face aux dangers, de leurs conditions de travail, de leurs attentes légitimes en matière de reconnaissance sociale et professionnelle.
Depuis le début du confinement, bon, on a quand même changé notre méthode. On intervient maintenant, on a des gants, on a des masques, on a un protocole à suivre, bien sûr. On est tenu au courant s'il y a des personnes qui sont atteintes du virus. Pour l'instant, on a la chance de ne pas en avoir. Sinon, on est équipé. On a vraiment, point de vue notre responsable, on est tenu au courant. On a souvent des messages... qui nous soutiennent pour le travail qu'on en fait, quoi, qui disent que il faut quand même qu'on aille travailler, on est obligé. Après, ils nous disent aussi, si jamais on commence à être malade, bien sûr, il faut qu'on reste chez nous, surtout pour la santé de nos patients, quoi.
Depuis le début du confinement, c'est-à-dire que nous, on a eu des cas assez tardivement, pas tout de suite. On a eu en fait des entrées chez nous, dans notre résidence, d'autres services, et en fait, voilà, on a su 14 jours plus tard qu'elle était atteinte du Covid. Les gens étaient confinés déjà en chambre, donc c'est-à-dire qu'ils ne voyaient personne, plus de visite de l'extérieur, les soignants portaient des masques, des gants, justement ça d'ailleurs, on est tombé en pénurie de masques et de gants, de surblouses.
Depuis le confinement, donc je travaille à distance puisque moi je suis dans les Hauts-de-France, tout en visio ou en conférence téléphonique, qui évidemment est beaucoup moins simple. Et avec un mot, je pense qu'il serait le mot à retenir de toute cette période, même si elle n'est pas encore terminée, c'est adaptation permanente à tout ce qui arrive, à l'évolution de ce virus, à recommandations ou doctrines que l'Agence régionale de santé nous envoie, à la réalité de la vie à l'intérieur de l'établissement.
Alors je ne parle pas salaire. C'est pas ce qui me préoccupait le plus au départ. Ce qui me préoccupait, c'est de ne plus les voir, quoi, de ne plus aller les aider, en sachant que pour l'un d'entre eux, il a 83 ans. Ça m'ennuyait de savoir que je n'allais plus pouvoir faire ce que je faisais pour lui depuis ces derniers temps. Alors j'ai deux de mes employeurs, parce qu'en fait je travaille pour 6 employeurs différents par semaine. Donc sur les 6, il y en a 2 qui m'ont demandé de rester chez moi. Ensuite, pour la pharmacie, c'est toujours les mêmes tâches, à part que les conditions sont différentes. Donc, ce que je fais en arrivant au matin à 8h, avant l'ouverture de la pharmacie, je désinfecte tout ce qui a été, tout ce qui a pu être touché par les filles, enfin mes collègues de travail, hein, ça va du, par exemple, de la cache de porte, de la poignée de porte, à la souris, à l'écran de, d'ordinateur, au clavier, tous les plans de travail. Voilà. Je continue à livrer. Donc, bien sûr, la livraison est différente, hein. Là, à ce moment-là, oui, bien sûr. Je porte un masque et je porte des gants. Je rentre dans ma voiture, je me passe du gel hydroalcoolique sur les mains, sur les gants. Voilà quoi. Je fais attention à moi, surtout très attention à eux.
Depuis le début de l'épidémie, en tant qu'institut de formation, nous avons eu des directives de l'ARS via donc le ministère de la Santé pour réorganiser les stages des étudiants afin qu'ils soient mis dans les services en renfort des équipes pour aider les équipes à gérer cette crise sanitaire. Donc il a fallu qu'on réorganise tout ça, ça a demandé beaucoup de travail avec un sentiment un peu ambivalent, c'est-à-dire appliquer des directives ministérielles et en même temps savoir qu'on allait affecter des étudiants dans des unités Covid, c'est-à-dire mettre des étudiants en première ligne. Donc il est bien certain que quand on embrasse cette carrière, tant qu'étudiant, qu'en tant que salarié, enfin professionnel, on se doit d'y aller, quoi, d'aller face aux problématiques. Pour les professionnels, se pose moins la question parce que c'est ancré dans leur esprit. Pour certains étudiants, c'était un petit peu plus problématique parce que se posait la question de la peur d'être confronté à la maladie, ou alors la peur des parents, la peur de l'entourage, leur interdisant d'y aller. Et donc, certains étudiants étaient tiraillés entre leur envie de participer au service public, à aider les autres, à soigner les gens, et la peur des parents. D'ailleurs, très vite, une cellule d'accompagnement psychologique a été mise en place.
Situation Covid, c'est vrai que personne ne s'y attendait, hein, donc ça a été un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter tous les jours, parce qu'on a eu énormément de changements d'avis, de position, un jour il fallait faire telle chose, un jour mettre les masques pour telle intervention mais pas pour d'autres, oui, non, FFP2, pas, ça a été très compliqué. Après il a fallu gérer le stress des patients, le stress de certains collègues. Il faut dire aussi que tout le monde ne vivait pas ça de la même manière, hein, donc certains ont été vachement angoissés par rapport à la situation. De devoir travailler, de prendre les risques. Après, bon, ben, pour d'autres, moi, au niveau du travail, ça allait, mais c'était plus une crainte vis-à-vis de la famille à la maison. Enfin, voilà, on les reste confinés, mais finalement, nous, on va y en vient tous les jours. Je me dis, je les confine, eux n'ont rien, mais peut-être que je vais leur transmettre. Et puis, à cela, il fallait ajouter aussi s'adapter dans la vie quotidienne, parce que, bah, du coup, l'école à la maison pour les enfants, des enfants qui ne peuvent donc pas trop sortir... pas hésitant, surtout quand on continue de travailler, parce que ça prend quand même beaucoup, une paire d'heures de travail à l'école, donc voilà.
Peu de patients au tout début, et puis de plus en plus. Très compliqué à gérer, puisqu'il y avait la fatigue physique, mais aussi la fatigue psychologique, puisque c'est des patients qui n'avaient pas de visite de leur famille, pas de proches, qui se retrouvaient seuls. Et puis beaucoup de gens qui sont transférés en réanimation, et puis beaucoup de gens aussi qui malheureusement partent seuls, décèdent seuls. Et c'est ce point-là qui est très compliqué pour nous, enfin moi en tant que soignante dans mon service. Au-delà de la pathologie du Covid qui est déjà aussi très compliquée à gérer, puisqu'il y a plein d'éléments qu'on ne connaît pas par rapport à ce nouveau virus. Qu'on ne sait pas trop comment faire, comment agir, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, qu'on doit se protéger au maximum, mais est-ce que le maximum est suffisant, on ne sait pas. Et puis après, c'est le retour chez nous aussi, après notre nuit de travail, qui est compliqué parce qu'on doit gérer nos émotions, on ne peut pas prendre notre famille dans nos bras, on ne peut pas les embrasser, on doit avoir rester à distance quand même pour les repas, pour les vêtements aussi, on doit faire attention, se déshabiller à l'hôpital, prendre sa douche à l'hôpital, les vêtements chez soi, bien les mettre à part, les laver à 60 tout seul, enfin, il y a plein de précautions qu'on doit faire attention pour se protéger nous, mais surtout pour protéger notre famille. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas et auxquelles on n'était pas confrontés avant le Covid-19.
Selon le métier, chacune est donc confrontée à différents degrés de dangerosité. Les risques d'être infecté ou de transmettre le virus sont pourtant réels. Une menace qui peut éveiller un sentiment de peur. Rappelons que ces risques s'ajoutent à ceux liés à des professions particulièrement accidentogènes. Dans les EHPAD, par exemple, l'indice de fréquence des accidents du travail s'élève à 47,1, soit près de deux fois la moyenne nationale.
Moi, je le dis, j'ai pas la peur. Je peux pas dire que j'ai peur. Après, je me dis que si c'est pas au travail qu'on l'attrape, c'est en allant faire des courses. Ça peut être un. Il y a tellement différentes façons de l'attraper que moi, c'est pas la crainte du travail.
Je n'ai pas peur, mais oui, c'est vrai qu'on est fortement exposé parce qu'on est proche des gens, dans leur intimité. Voilà, on s'occupe d'eux, on va dire, au moins 30 minutes, voilà, le temps d'effectuer une toilette, voilà, d'aider à manger. Donc forcément, on est beaucoup exposé au virus. En gros, on subit le truc, quoi. Voilà, on ne sait jamais à l'avance, qui est infecté par le virus ou pas, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on a des remplacements d'autres services. Et comme là, c'est arrivé la semaine dernière, une collègue était positive. Donc là, du coup, le personnel est... Enfin, là, on est en train d'être testé. Et ensuite, ce sera autour de tous les résidents.
Non, je me sens pas plus en danger à la pharmacie que chez certains de mes employeurs. Non, dans la mesure où on fait très attention... où on pense très souvent à se laver les mains, à cette barrière de distance qui est conseillée, et puis je ne vis pas plus mal, je ne peux pas dire qu'avant, parce que là, avant, c'est peut-être plus le mot qui convient. Enfin, t'as l'impression que le avant soit encore d'actualité, c'est autrement, c'est différent. Voilà, je vis mon travail, ma profession différemment. Bon, peut-être parce que j'ai pris conscience du danger, point barre.
Nous, dans les locaux de l'Institut proprement dit, il faut reconnaître qu'on était loin des services. Donc, à part être en contact avec un collègue qui était porteur sans le savoir, que j'ai une crainte, et la crainte aussi de rencontrer dans son entourage quelqu'un de porteur sans le savoir et de ramener ce virus à l'école. Même si on mettait toutes les mesures en place, le gros sentiment, en tout cas le mien, et je le partage avec pas mal de formateurs, c'est d'envoyer les étudiants au front. En sachant que, paradoxalement, on sait que les étudiants qui sont envoyés dans les ailes, les services Covid, là, ils ont eu très rapidement tous les moyens pour se protéger. Tandis que dans les autres services non Covid, ils appliquent les mesures de précaution standard ou complémentaires habituelles, mais sans le savoir. Et c'est là où ils sont plus à risque, en fait.
Pour le personnel de l'établissement, je pense que c'est un peu ce qu'on entend dire régulièrement, c'est un ennemi un peu invisible. Donc je pense que dans les premiers temps, ça nous semblait quelque chose d'un peu loin. On a entendu parler effectivement de ce qui se passait dans l'Est, dans les EHPAD d'ailleurs de l'Est également. Et puis est arrivé le premier cas chez un résident de l'établissement, où là effectivement il y a eu un espèce de mouvement de panique et qui est tout à fait légitime. Alors il se fait que ça a été à peu près au même moment où on a commencé nous à trouver des solutions pour récupérer des blouses, etc. Mais il est sûr qu'il y a eu ce questionnement permanent de l'exposition au virus et puis effectivement de l'exposition pour leur propre famille. Il y a des personnes qui, de fait, ont eu des craintes et qui donc se sont mis en arrêt maladie. Bon, il y a eu un peu toutes les réactions. Heureusement, j'allais dire, on a pu aussi recruter des personnes dans la même période même si ça a été extrêmement tendu, on a pu faire face à l'accompagnement des personnes avec des vrais changements de poste pour certains, c'est-à-dire des personnes qui faisaient de l'animation qui se retrouvent en lingerie, des personnes qui faisaient de la psychologie qui se retrouvent à désinfecter des chambres.
Ben moi, personnellement, j'en ai la conscience quand même, mais en même temps, ça ne m'angoisse pas trop parce que, enfin, déjà, je me dis que je suis plus ou moins quand même en bonne santé, je fume pas, tout ça, j'ai pas trop de facture de risque. Et je suis habituée, du fait de mon poste, devoir opérer des gens qui peuvent être, que je sais que des fois ils sont VIH, ils ont telle pathologie, qu'ils sont vachement infectés, qu'ils ont ci, qu'ils ont là. Alors que, qu'on les opère, donc, j'ai les mains dans le sang, enfin, tous les risques que ça entraîne. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu l'habitude de ça. Non, c'était vraiment plus par rapport à mes enfants et mon mari, en fait. Bon, bah, toi, tu prends toutes les précautions. Moi, je faisais attention pour moi. Je sais que c'est mon métier, ce que ça engendre. Mais là, c'était vraiment le fait que là, c'est un virus qu'on peut transmettre, en fait. On le voit pas, on le sait pas, on n'a pas forcément de signes, donc on peut être porteur sain. Et du coup, c'est pas évident du tout de savoir le risque qu'on fait prendre aux autres, en fait.
S'il n'y avait pas cette peur, je pense que c'est qu'on ne serait pas vraiment... On ne mesurerait pas les conséquences. On risque d'être contaminé à notre tour. Et au jour d'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de soignants, que ce soit aide-soignante, que ce soit infirmier, que ce soit médecin, qui en sont décédés. Donc on risque notre vie tous les jours. Oui, c'est ce que je ressens. Je pars avec une boule qui grandit au fur et à mesure de l'heure à laquelle arrive le moment de partir. Et quand j'ai fini ma nuit, j'ai aussi cette boule qui est là, que je me dis, est-ce que j'ai bien tout fait? Est-ce que j'ai bien lavé mes mains quand il fallait? Est-ce que j'ai bien tout décontaminé? Est-ce que je suis pas infectée? Est-ce que c'est toujours des questions et qu'on n'a pas de réponse ou qu'on aura peut-être un jour, si on développe la maladie, mais ce qu'on n'espère pas. Dans mon service, il y en a qui ont développé la maladie. Il y en a qui ont développé moins grave que d'autres. Il y en a d'autres qui ont dû être hospitalisés. Donc, c'est des choses qu'on côtoie et que, bien sûr, que ça fait peur. On a peur. On va soigner les gens parce qu'on, c'est notre métier, on aime ça. Et puis, il faut bien des gens pour les soigner. Je pourrais pas ne pas y aller. Mais il y a toujours cette peur qui est là.
Si la plupart d'entre elles n'ont donc pas peur, la vocation ou la capacité d'adaptation ne doit pas compenser la défaillance d'un service public rongé par l'austérité budgétaire. À l'hôpital, par exemple, les moyens sont ceux du service public hospitalier. Ils sont insuffisants et c'est cette contrainte qui représente une mise en danger plus ou moins assumée par la hiérarchie et les institutions, ce dont témoignent les hésitations de début d'épidémie.
Nous, on a déjà quand même un métier où il faut quand même faire attention avec la pathologie des gens. On a toujours eu une façon d'arriver chez les gens. Il faut respecter, il faut se laver les mains déjà quand on change d'une personne à une autre. Donc ça a toujours été. Après, on fait peut-être un peu plus. Mais sinon, nous, déjà, on a déjà un métier où il faut y faire déjà attention.
Depuis le début du virus, il nous a toujours manqué quelque chose. Que ce soit des gants, des masques, maintenant c'est des surblouses, les masques FPP2, c'est que pour les IDE, pour les soins invasifs. On n'était pas prêts, ça c'est sûr. Pareil, depuis quelques années, on voit dans les hôpitaux les lits baissés, on a très peu de moyens. Déjà, on n'est pas de... Le travail est assez soutenu, on va dire. Et du coup, forcément, le fait de ne plus avoir de visite, forcément, on passe plus de temps avec les résidents, à discuter, à les rassurer.
Dans l'établissement, au niveau des équipes, ça a été beaucoup plus compliqué. Plutôt dans l'équipement, ce qu'on appelle l'EPI, les équipements de protection individuelle, qu'on leur devait par rapport effectivement à ce virus. On est comme les autres établissements, voire comme le secteur sanitaire, c'est-à-dire il y a eu toute une période de pénurie des masques, puis une période de pénurie des surblouses, et il a fallu vraiment, à notre niveau, faire preuve de créativité, de faire appel à nos réseaux, du système D pour arriver à équiper correctement le personnel, et puis pouvoir faire travailler les gens dans de façon sécurisée, quoi. Ce qui, il faut le reconnaître, les premiers jours n'a pas été le cas parce que on n'avait pas les équipements nécessaires.
Alors moi, en tant que formatrice, je dirais qu'on a eu les moyens. On n'avait pas de moyens vraiment. On a de nous-mêmes mis en place les moyens de distanciation sociale, à travailler éloignés les uns des autres. Très vite, on a eu des masques tissus, parce que bien sûr, on n'a pas eu de masque papier, aucun. Voilà. Ensuite, il a fallu aller aider le terrain. Ça, c'était autre chose, parce que pareil, les moyens, bon, on avait les moyens de l'hôpital. Et les moyens de l'hôpital, au tout début, c'était pas ça, quoi.
Quand on demande des FFP2, nous, pour l'instant, on en a. On en a, on a des surboses, on a. Après, on a eu aussi, on a eu le fils d'une anesthésiste qui nous a créé des visières spéciales avec son imprimante 3D. Donc, on a eu aussi des aides extérieures, j'ai envie de dire. Donc, nous, à notre niveau, on peut pas trop se plaindre, quoi, j'ai envie de dire. Je pense que c'est plus au niveau des moyens de l'hôpital, peut-être certains services et aussi ceux qui sont en ville, malheureusement. Je pense à des collègues libérales. Et eux, par contre, elles n'ont pas ce qu'il faut, quoi. Vraiment, je pense que on est dans un gros service, donc on a quand même plus de stock à la base, je pense. Mais d'autres, je sais qu'ils sont en difficulté, et je sais que je suis allée voir d'autres personnes à l'hôpital, notamment des brancardiers, tout ça, qui eux n'avaient pas du tout de masque, ou et qu'on leur disait que c'était pas la peine, ou enfin voilà.
Des fois, on nous a promis de l'aide un peu plus, du renfort. Certaines fois, on l'a pas vu. On a demandé plus du renfort infirmier. On a eu du renfort aide-soignant. Les masques de protection, nous, dans notre secteur Covid, on voit bien que partout, on préconise les masques FFP2. On a des masques chirurgicaux. On nous donne une dotation qu'on doit aller chercher par semaine, qu'on doit signer. On nous donne 15 masques. On doit se battre pour avoir des masques FFP2 alors que on est quand même en contact avec nos patients qui sont positifs. Partout, c'est préconisé des masques FFP2. On doit se battre pour pouvoir avoir le matériel nécessaire.
Je sais qu'il y a plusieurs filles qui ont été amenées à arrêter de travailler parce que, pour ceux qui ont du diabète, de l'hypertension, ça, ils ont eu un droit de retrait, il n'y a pas eu de souci du tout. Par contre, après, je pense que nous, on est quand même une association où on a une responsable qui est fort à notre écoute. Si jamais, je pense qu'on aurait vraiment un souci, qu'on ne se sentirait pas capable d'aller travailler, qu'on aurait la boule au ventre, je pense qu'ils nous écouteraient. Bien sûr, je rencontre les filles parce que comme je suis responsable de mon secteur, et les filles me parlent. Bien sûr, les filles ont peur, mais je ne sais pas comment ça se serait passé s'il y aurait une personne qui l'aurait eu et une fille qui voulait pas y aller. Mais je pense qu'on serait quand même à l'écoute et la personne chercherait le DMR chercherait quelqu'un d'autre pour remplacer cette fille.
Donc oui, on a de la pression. Ben après, voilà, des familles, des personnes soignées forcément, parce qu'elles ne comprennent peut-être pas totalement la gravité, du virus, surtout sur les personnes âgées. On a l'impression, oui, que la hiérarchie, la direction, tout ça, ils ne savent pas encore, tout sur ce virus. Les protocoles changent souvent parce qu'on n'est pas sûr.
Alors, il y a deux postures. Il y a à la fois des doctrines, hein, puisque c'est le nom qu'ils leur ont donné, qui tombent régulièrement par mail, au travers de ces conférences, etc., sur des conduites à tenir, donc les gestes barrières, l'hygiène, le traitement des corps des personnes décédées. Ça, c'est plutôt donc des doctrines qu'on doit appliquer. Et en parallèle, il y a une recherche, même si elle est parfois un peu tardive, à nous aider, c'est-à-dire à fournir des masques, à fournir du matériel, à nous donner du personnel en renfort au travers de notamment de la réserve sanitaire. La difficulté, c'est que il y a un temps entre le besoin qui se fait jour dans l'établissement et le moment où, où l'ARS est en capacité de nous amener des solutions. Donc, il y a effectivement de notre part souvent quand même la débrouille avant d'avoir des possibilités. Mais il y a quand même ce sentiment un peu de décalage entre la réalité du terrain et le moment où la doctrine adaptée arrive. Ça quand même été un problème permanent, qui est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que le système tel qu'il est et qui fonctionne habituellement, donc dans les institutions, ministère de la Santé, agences régionales, etc., n'a pas trop changé sa forme d'action, ce qui fait que on passe encore par des strates, c'est-à-dire que tant que l'ARS n'a pas l'avis et la doctrine du ministère de la Santé, eux ne bougent pas, donc on crée des décalages successifs. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'a pas forcément des institutions mobilisées façon crise, quoi. Ils sont mobilisés, mais dans une lourdeur encore administrative qui est certaine.
Les consignes sont arrivées au fil de l'eau, en fait. Il n'y a pas eu possibilité d'anticiper. Comme on n'était pas la première région concernée, on a suivi un peu la progression du Grand Est pour se préparer quand même un peu. Il ne faut pas dire qu'il y avait une pression. Bon, après, il y avait la pression dans l'application, dans le travail. Mais la pression de devoir faire comme ça, c'était un peu normal par rapport au fait qu'on fasse un métier au service de service public, au service de la population. C'est ancré dans les valeurs du métier infirmier, ça. Donc, plutôt avoir des informations qui arrivent tous les jours au fil de l'eau, pas être certain de pouvoir faire comme ça. Est-ce que ça va être reconnu? Est-ce qu'il va y avoir une rémunération, une prime? Est-ce que, voilà, c'est plutôt la grosse artillerie qui a des difficultés à se mettre en route, quoi.
Bah, la hiérarchie, après, j'ai envie de dire, on a une hiérarchie qui nous considère pas beaucoup, hein, ça c'est pas neuf. Hein. On est vraiment là, en gros, pour faire de l'abattage et puis suivre ce qu'ils disent. Moi, personnellement, les miens, pas plus été à l'écoute que ça, ou après, je parle pas pour les autres, je ne sais pas. Ce que je vous disais au début, ils nous disaient que certains n'avaient pas besoin de masque FFP2, fallait pas trop gaspiller. Jusqu'à ce que ça soit leur reçu un ordre de dire que c'était obligatoire pour tâche d'intervention et que là, ça n'est plus trop chaud. Hein.
On essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais la direction essaie quand même de nous donner du matériel. C'est des choses auxquelles on n'était pas préparé avant. On doit changer notre façon de faire et on doit s'habituer à une autre façon. Ça, c'est pareil pour tous les hôpitaux apparemment, tous les hôpitaux qui s'occupent de patients Covid. Donc on fait avec les moyens du bord, on écoute, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a.
La crise sanitaire a révélé les travers d'une logique de rentabilité qui s'impose dans le soin ou le service à la personne. Pénurie de matériel, manque de personnel, conditions de travail difficiles sont le quotidien des travailleuses qui, si elles acceptent d'être mises sous pression en période d'épidémie, sont contraintes de reporter sur les personnes soignées les carences matérielles ou organisationnelles. Une situation qui affecte directement les professionnels, victimes alors d'une double peine.
C'est un peu gênant pour les personnes, surtout qu'ils ont atteint la maladie d'Alzheimer, parce qu'ils ne comprennent pas trop nous voir arriver avec des masques. Donc c'est difficile de leur faire comprendre et puis de leur faire peur aux gens en même temps. Ça, c'est pas évident à gérer, la peur des personnes. Après, il y en a, ils le comprennent très bien et ils préfèrent qu'on soit protégés pour qu'on les protège. C'est surtout pour les protéger eux, que nous, on leur apporte pas le virus. Surtout
les résidents, qui ont l'habitude que le membre de la famille vient les visiter une fois par jour, là, passer du tout au rien, on ressent chez eux de la solitude. Ils ont besoin déjà à la base beaucoup de parler, mais là encore plus dans ces moments-là. Maintenant, avec la décision qu'a pris le gouvernement d'autoriser les visites. Mais par contre, voilà, il n'y a pas de contact physique, c'est que visuel, c'est dans un sas, ils sont séparés par une baie vitrée, voilà, pour l'instant, et c'est sur rendez-vous, on en a 3 pour l'instant par jour, parce que à chaque passage, après chaque visite, on doit tout désinfecter.
En EHPAD, la particularité, c'est que les personnes qui décèdent sont des personnes qu'on connaît en général depuis plusieurs années, on connaît leur famille, on connaît... Donc, pour le personnel, c'est comme perdre un peu un proche, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'affectif qui est très important. Sauf que là, dans la période, on est tellement le nez dans le guidon que cet aspect-là, on va dire plus psychologique, qui devrait être accompagné, l'est pour moi beaucoup trop peu. Alors, l'ARS notamment a mis en place des plateformes de psychologues, etc., qui sont extrêmement peu utilisées par le personnel, même si évidemment les informations ont été données, parce que les gens sont nés dans le guidon, quoi. Et moi, j'ai une vraie crainte au niveau de ces équipes, et même au niveau des résidents eux-mêmes, de l'après-crise, et de cet effet de décompensation qu'il va y avoir après avoir été dans une période tellement dense que tout d'un coup on sort la tête de l'eau et puis on s'aperçoit qu'on a été effectivement marqué, voire traumatisé par certains aspects de cette crise.
J'étais déjà, je pense, toujours très proche de mes patients, à l'écoute, surtout que moi je travaille de nuit, donc les angoisses de la nuit, les patients parlent beaucoup. On a dû gérer beaucoup plus de stress, de crises d'angoisse qu'il n'y avait pas avant. Les gens ont peur, ce qui est normal, puisque quand ils allument la télé, on en parle partout, du Covid, le nombre de morts. Tous les soirs, les gens attendent le nombre de morts. C'est le soir, la nuit, où moi, j'ai eu le cas d'une patiente qui m'a attrapé la main un matin et qui m'a dit « S'il vous plaît, je vous en prie, dites-moi que je vais pas mourir ». Et ça, c'est compliqué pour nous, enfin pour moi, c'est compliqué parce que dire ? Lui dire « Non, vous allez pas mourir ». Peut-être que je vais lui mentir, peut-être qu'elle va mourir. On ne sait pas. On ne sait pas comment sa pathologie va évoluer. On ne sait pas quels sont les problèmes. Est-ce qu'elle va finir en réanimation ou pas. On ne sait pas. Après, il y a ce lien qui se crée. Les gens, j'ai eu des gens qui m'ont dit, des patients qui m'ont dit, je ne vois que vos yeux, mais votre foi, je l'oublierai pas. Il y a cette relation qui se crée. On essaie de dire des petits mots gentils, de les faire sourire parce qu'ils ont personne. Ils n'ont pas de visite. Ils n'ont rien. Il y en a qui n'ont même pas de téléphone. Et le seul contact qu'ils ont, c'est avec nous. Et c'est compliqué parce que des fois, et pour certains, ils finissent seuls, tout seuls. C'est très dur quand on prend un patient, qu'on doit le mettre dans sa housse, fermer sa housse, et se dire que voilà, on n'était pas là pour tenir la main. Et ça, c'est compliqué. C'est, je dirais, c'est le moment le plus compliqué pour moi. C'est ce moment-là.
Le soin ne peut tenir sur le dévouement de ces travailleuses qui œuvrent ici dans l'urgence pour sauver des vies ou au quotidien pour les entretenir. Les applaudissements de 20 heures ne font pas oublier le besoin de reconnaissance sociale ou de revalorisation professionnelle de celles qui exercent un travail non seulement d'utilité sociale mais de nécessité vitale.
Pour les personnes, savoir qu'on leur apporte la joie de vivre quand même. Moi, je me sens utile, malgré que on a diminué notre travail parce que on a arrêté les ménages pour le risque de les contaminer tout ça. Donc, tout ce qui était ménage a été supprimé. Donc, on a toujours gardé les toilettes et les repas. Quelque chose qui, c'est vital, quoi. Les personnes, si on les lève pas, c'est, parce que bon, il y a déjà les infirmiers, mais des fois, les infirmiers n'interviennent pas dans ces maisons-là. Donc, les personnes nous attendent. Donc, on se sent vraiment, on sait que c'est vital pour eux, quoi. Et moi, franchement, c'est un travail qui m'a toujours passionnée. Si on fait pas ce métier-là par passion, de toute façon, c'est pas la peine de le faire. Parce que les gens le ressentent et nous, on n'est pas bien. Donc,
j'aurais été très malheureuse à l'idée de ne plus pouvoir travailler et de ne plus pouvoir avoir ce service à rendre auprès de ces patients. Je suis très, très, très heureuse d'aller travailler. J'ai toujours aimé ce que je faisais. Et je l'aime davantage aujourd'hui parce qu'il y a ce danger et que les gens seraient désespérés de ne plus nous voir ce sens de nos obligations de travail, d'avoir abandonné un peu le poste. Voilà, moi j'ai le sentiment de n'avoir rien abandonné. Je continue à travailler comme avant, autrement, mais voilà.
C'est vrai qu'on entend beaucoup à la télé, puis ceux qui nous applaudissent, tout ça, parce que ils sont dépendants de nous là pour la pandémie, quoi. À voir comment ça va se passer par la suite, quoi, parce que juste avant on était quand même dans les rues à défiler toutes les semaines pour nos retraites et tout ça, et là on était plus écoutés, quoi. Et après on a toujours quand même le public à la base qui est entre guillemets avec nous parce qu'ils savent que à l'hôpital les soignants enfin sont utiles et compagnie, mais c'est vrai que l'État n'écoute pas et puis ça suit pas comme finalement ils viennent à l'hôpital et qu'ils sont toujours soignés parce qu'on est là, on est forcément réquisitionné tout ça. Moi je veux voir ce qui arrivera après, quoi. Est-ce que le mois d'après on va être oublié et qu'au final on n'aura pas d'évolution sociale et de salaire et tout ça. Et en fait, on a toujours ce couvert de « il y a le patient derrière ». Donc c'est vrai que comme c'est un patient, qu'il y a une personne, on se dévoue tout le temps et en se disant « bon ben voilà, il faut bien les soigner, il faut bien quelqu'un ». Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu fatigant de jamais être reconnu vraiment à son métier, à la technicité qu'on fait, d'avoir encore un peu ce regard que les gens ont, de se dire que c'est une vocation plus qu'un métier, et que voilà quoi. Et on aimerait bien être reconnu pour le diplôme qu'on a, et les études et tout ce qui s'ensuit quoi, les responsabilités, les risques qu'on prend.
Bah, je me dis que c'est dommage qu'il y a dû avoir le Covid-19 pour que les gens se rendent compte que quand même on est indispensable à la société, les gens, le gouvernement, ben, en général. Le fait qu'on nous applaudisse, c'est très bien, ça, on est content, hein, c'est pas ça. Mais je préférerais que les gens respectent le confinement correctement, qu'ils respectent les gestes barrières, même quand ils vont faire leurs courses. Donc oui, c'est bien de nous applaudir et là se rendre compte que bah oui, on est indispensable. Mais quand vous venez à l'hôpital, eh bien rappelez-vous et ne nous traitez pas comme des fois on nous dit ouais, mais de toute façon t'es payé pour. De tous les jours, on se préoccupe pas que ce soit du personnel soignant, que ce soit des caissières, que ce soit des éboueurs et autres. Hein. Il y a plein d'autres professions qui passent inaperçues au quotidien en temps normal et que là, aujourd'hui, on se dit « Ah bah tiens, tout compte fait, c'est pas des gros salaires qui sont les plus indispensables. »
Personne ne remettrait en cause l'attachement aux services publics, à leur mission de soins ou d'aide, aux valeurs d'humanité des personnels soignants. Il est pourtant difficile dans ces conditions de se mobiliser pour de meilleurs salaires ou des conditions de travail plus dignes, d'autant que le chantage émotionnel n'est pas loin. Abandonner son poste pour revendiquer, c'est abandonner les patients. Les attentes sont pourtant là, pour l'après-Covid, à mille lieues de celles des dirigeants politiques qui souhaitent hâter la reprise économique.
Je trouve que les aides à domicile ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur. Alors que pourtant elle tisse un lien social vital, quoi. Et je trouve que, mais je pense que avec ce qui se passe en ce moment, les gens le reconnaissent. Après, bien sûr, tout ce qui est la hiérarchie, tout ça, je ne sais pas s'ils vont pouvoir faire quelque chose pour nous récompenser ou nous dire nous mettre en valeur, quoi. Mais si, je trouve quand même qu'on n'est pas assez reconnu pour ce qu'on en fait.
Beaucoup plus de personnel. Parce qu'on n'est pas suffisant, surtout en EHPAD, un meilleur salaire, plus de moyens, parce que voilà, on n'a pas beaucoup de choses, que ce soit du matériel médical ou des lits, des matelas, des coussins, de tout, vraiment de tout.
Il y a une demande effectivement de reconnaissance, alors qui se fait au quotidien, parce qu'effectivement les résidents eux-mêmes sont dans de la reconnaissance hein, par rapport à l'accompagnement qu'ils ont en ce moment des salariés. Il y a une reconnaissance financière qui est sollicitée, qui est en train de plus ou moins se mettre en place, mais ça reste sous la forme d'une prime exceptionnelle. Mais effectivement, je pense que les EHPAD, comme le secteur sanitaire, on en a largement parlé bien avant cette crise, et cette crise n'a fait qu'accentuer effectivement à la fois le décalage entre des métiers qui sont extrêmement mal payés et qui sont essentiels à la société. J'espère qu'il y aura une mobilisation autour de ça, parce que je pense que tout comme le secteur hospitalier, on ne peut plus laisser les EHPAD comme ils étaient avant la crise, quoi. Il y a vraiment une pénurie de personnel qui fait que quand on a donné les soins, quand on a donné à manger à la personne, quand on lui a donné ses médicaments, etc., il manque énormément de temps pour accompagner les gens sur les discussions, la vie sociale, leur utilité sociale, qui est un vrai problème en EHPAD. Et du coup, ce temps-là qui est aussi indispensable que donner à manger, donner des médicaments, faire une toilette, était très très détérioré avant la crise parce que il y avait pas assez de personnel. Donc ça, il y a vraiment à revoir de fond en ce sujet-là.
Ouais, mais oui. Enfin, c'est parce que je me considère pas. Mais peut-être que je me considère pas finalement. Tout simplement. Je crois que j'ai toujours un manque de considération envers moi-même. Mais oui, bien sûr qu'on a besoin d'être mieux considéré, d'avoir les outils nécessaires. Enfin, moi, je reprends toujours cette phrase que je me dis, voilà, on a déclaré la France en guerre, Mais où sont les munitions? C'est ce qu'il faut revoir. On est en train de fabriquer nos propres munitions, quoi. Je veux dire, c'est... On a préféré l'économie et la santé, alors que l'économie, elle est bonne que si la santé est bonne, quoi. Il faut revoir tout ça, quoi. Oui, il faut tout revoir.
Depuis longtemps, on demande, on revendique la grève des urgences, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Elle était toujours pas finie, la grève des urgences, d'ailleurs, qui a duré plusieurs mois, demande une reconnaissance salariale, hein, une augmentation salariale conséquente, parce que on a promis 80 euros de prime par mois, hein, donc c'est quand même se foutre un petit peu des soignants. Là, je pense que c'est le moment d'agir. Dans les propos des grands responsables politiques, il est question, il va falloir revaloriser, reconsidérer ces métiers-là. On prévoit de donner des primes, de reconnaître les maladies professionnelles pour les soignants. Est-ce que ça va être quand même l'exemple, la situation qui fait que on va enfin reconsidérer le métier de soignant? On sait que c'est un métier où les gens ont certaines valeurs à ne pas s'arrêter pour revendiquer, parce que on sait que s'il y a plus de soignants, on peut plus soigner les gens, on peut plus les prendre en charge. Les autorités peuvent faire pression très facilement sur les soignants, parce que ils savent que ils courbent vite les chines avec parce qu'ils ont toujours ce sentiment d'abandonner les malades quand ils s'arrêtent.
Ah bah moi, mes attentes, ça serait qu'il y ait une réelle revalorisation, ce qui est demandé depuis longtemps, hein. Et tout simplement qu'on paye enfin les gens, pas que moi, hein, qu'on paye les gens enfin à leur niveau d'études et à ce qu'ils font, et à leur responsabilité, tout ça. Qu'on remette un peu la balance, l'équilibre. Alors c'est bien de donner une prime, effectivement, vu les circonstances actuelles, on va dire ok, mais après, il n'y a pas que ça, quoi. Il faut revoir le problème de base, pourquoi il y a autant de infirmières qui quittent l'hôpital, pourquoi il ne reste plus à travailler à l'hôpital qu'une moyenne de 2 ans maintenant, tout le monde s'en va, parce que ça ne va pas. Il faut faire l'équilibre entre, pour certaines personnes, déjà mettre à jour les diplômes, pour les infirmières, tout ça, et après, pour les autres, d'avoir un peu, pour des métiers d'aide, voilà, un minimum, quoi, qui sont un peu plus haut, quoi. Pas le SMIC, enfin, au vu de ce qu'ils font voilà, la présence, c'est qu'il faut bien des gens pour s'occuper de ces personnes-là, tout ça. Bah oui, on les met en lumière, c'est bien, on dit que c'est bien ce qu'ils font, que c'est beau, mais enfin, il faudrait un peu les revaloriser, quoi.
J'attends de voir, parce que les gens qu'on est en train de, là, qu'on est en train de nous applaudir tous les soirs, il faut pas oublier qu'il y a quelque temps, on nous a gazé quand on a manifesté justement pour avoir du matériel supplémentaire, pour avoir des lits supplémentaires et pour avoir une valorisation des salaires, on nous a gazé. Et là, maintenant, on nous applaudit. Mais quand je dis on nous a gazé, c'est le gouvernement, hein. Je parle pas des gens. En général, c'est les politiciens nous ont, là ils nous applaudissent, mais avant ils nous ont gazé. Donc là on nous promet monts et merveilles au jour d'aujourd'hui, mais on attend de voir.
Dans un article de mars 2018 du Monde diplomatique, Pierre Rimbert titrait « La puissance insoupçonnée des travailleuses ». Représentant la moitié du salariat, majoritaire dans la santé, le médico-social, mais aussi dans l'entretien. Que se passerait-il si ces femmes formaient bloc pour faire grève? Qui s'occuperait des malades, des personnes âgées, des enfants, des personnes fragiles? Qui nettoierait les hôpitaux, les EHPAD, les écoles, mais aussi les entreprises? Il y a fort à parier que dans un tel cas, les décisions politiques seraient vite prises. Au-delà de la difficulté de trouver les ressources pour dépasser le quotidien, il faudrait pour cela prendre conscience de ce pouvoir insoupçonné.
Bah, en tant que femme, c'est le fait d'avoir des enfants à la maison. Quand le boulot est fini, ben, y a le boulot de maman à la maison et le boulot de femme en rentrant. On sait que dans la société, il y a beaucoup de familles monoparentales, et monoparentales, c'est la grande majorité, c'est les femmes, donc elles assument leur métier et leur famille toutes seules. Les femmes, qui sont encore très très majoritaires, elles sont aussi tiraillées entre je vais faire mon métier, j'aime bien mon métier, mais je laisse mes enfants et je risque de ramener le virus à la maison après mon poste. Donc il faut vraiment que ce métier soit
le risque du métier soit revalorisé. Des risques, même, il y en a tous les jours. Hein. Beaucoup de femmes sont usées par le métier. Donc j'espère que cette crise va davantage encore faire réfléchir les instances et les autorités pour reconnaître la difficulté.
Le fait qu'on ait un maximum de femmes, bah, y a cette solidarité voilà, entre nous. Le fait de d'avoir son métier, sa vie de famille, ses enfants, voilà, tout ça fait que oui, c'est assez difficile. On appelle souvent les syndicats pour se plaindre. Et puis voilà, et s'il y a grève, voilà, on n'hésite pas à y aller, à prendre de son temps et y aller. Là, voilà, on attend que ça se passe, le virus, et puis après, le gouvernement nous a promis des choses. Donc voilà, on attend de voir le résultat, le après le virus.
Qu'est-ce qui leur pose problème? Par exemple, des personnes qui étaient à temps partiel, à qui on propose des temps complets parce qu'effectivement, on a besoin de personnes. Qu'est-ce qui leur pose problème? Bah, c'est la garde des enfants. Si elles sont en famille monoparentale, c'est d'autant plus criant. Donc, elles sont, en tant que femmes, souvent, effectivement, bloquées par des aspects de leur vie familiale qui ne leur permet pas, effectivement, d'être disponibles comme elles le voudraient, là où elles le voudraient, au moment où elles le voudraient. Et ce qui n'a rien de scandaleux dans la demande, hein, d'ailleurs. Dans le secteur dans lequel je travaille, dans cet EHPAD-là, la convention collective qui est appliquée fait qu'il n'y a pas de discrimination de salaire homme-femme. Mais néanmoins, c'est le montant du salaire qui pose problème. C'est-à-dire qu'en région parisienne, où le transport a un coût, où le logement a un coût, etc., ces salaires qui sont au SMIC ou un peu au-dessus du SMIC, permettent très très difficilement à une femme, et d'autant plus si elle est seule avec des enfants, d'avoir de quoi vivre correctement au jour le jour. On voit bien hein, que dans leur vie quotidienne, c'est très compliqué.
Dans nos campagnes, voilà, elles sont là, 5 km plus loin, elles sont là-bas, 10 km après, elles sont ailleurs, elles sont tout le temps en route, tout le temps, elles savent à l'heure qu'elles partent, mais elles ne savent pas à l'heure qu'elles rentrent. Elles ont une famille, des enfants, des maris à marier. Ouais, peut-être qu'il y aurait besoin de revoir tout ça.
Il faudrait qu'on soit plus présent, c'est vrai, mais c'est pas toujours évident. Les manifestations, les choses, c'est vrai que, au niveau, du moins pour les soignants, nous, c'est vrai que c'est pas évident entre les réquisitions et puis un peu la hiérarchie, tout ça, le poids, comme on est vu quand on fait du syndicat ou quand on fait les grèves, tout ça, c'est vraiment pas une position facile, donc il y en a beaucoup qui le font pas, je pense. Alors, parce qu'il y a deux choses, ils disent qu'ils ont l'impression que ça sert à rien parce qu'à chaque fois on n'est pas écouté, qu'il n'y a pas d'avancée, et puis on est très mal vu au niveau de la hiérarchie ou même médicale dès qu'on fait du syndicat, dès qu'on manifeste, dès qu'on réclame, quoi. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on soit plus présente et qu'on réclame et qu'il y ait, enfin, même au niveau des salaires ou des retraites, hein. Parce qu'au niveau des retraites, les femmes sont grandes perdantes. Hein. Souvent, c'est nous qui nous arrêtons pour nos enfants. Voilà. Et au final, on se rend compte que dans le médical ou dans l'aide, quand on compare la retraite d'un homme ou d'une femme, il y a une grosse disparité. Quoi.
Le rôle, c'est qu'on a déjà, nous, on a déjà manifesté, on a déjà fait des grèves et des grèves et des grèves pour justement demander tout ce qu'on nous promet au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils ont vu qu'on était indispensable. Nous, on est quand même majoritairement des femmes. On a fait grève, on a fait tout. Mais si les médias, enfin pas les médias, le gouvernement, là, il peut nous dire oui, on va vous donner, mais que l'on soit des femmes ou pas, je pense pas que c'est ça qui va changer. Nous, on se bat beaucoup déjà parce que on est dans un métier où il y a beaucoup de femmes. Et puis après, on a le chez nous aussi. On se bat pour nous, pour les autres, pour donner un avenir. Sur le coup du Covid qui nous dit oui, on a besoin de vous, vous êtes indispensable, on va vous donner, on va faire. Mais je pense qu'ils vont dire on va étudier. Et puis d'ici quelques temps, ben voilà, quand on parlera plus du Covid, on parlera plus des personnels soignants. Et puis les valorisations qu'ils avaient promises, tout compte fait avec les budgets, ça n'ira pas. Enfin, il y aura toujours des excuses.
Oui, pour la reconnaissance, oui, pour l'augmentation de salaire en fonction de ce qu'elles ont pu apporter. Parce que nous, les femmes, moi je leur dis, elles sont exceptionnelles. Elles sont épuisées, mais elles sont formidables. Dans toutes les tâches qu'elles ont pu apporter, elles ont continué, sans craindre. Elles n'ont pas quitté le navire.
Oui, elles peuvent avoir à demander de reconsidérer à la fois leur rôle dans ce milieu et à la fois leur statut de femme. Mm-hmm. Encore faut-il qu'elles aient le temps de faire revendiquer.
À l'heure où les solidarités collectives remplacent la sécurité sociale, où le dévouement personnel pallie aux défaillances de l'État, à l'heure où les exigences de l'économie tendent à primer, où le confinement confine aussi à l'individualisme, les métiers du soin rappellent l'importance de l'humain, de l'accompagnement de la vie, jusque dans la mort. Prendre soin peut être un indice pour repenser notre rapport à l'autre, les relations sociales, mais aussi pour reconsidérer notre rapport au vivant, à l'aune de crises à répétition, dont on sait qu'elles tiennent principalement de l'exploitation de la nature, de ses ressources, du vivant, de l'humain, et de la marchandisation à l'échelle globale. Nous remercions pour leur participation Patricia, auxiliaire de vie, Amandine, aide-soignante en EHPAD, Christine, consultante en intérim de direction dans un EHPAD, Christine, aide à domicile et employée de pharmacie, Guylaine, formatrice en école d'infirmières, et deux infirmières en première ligne de la crise sanitaire actuelle dont nous avons préservé l'anonymat pour éviter d'éventuelles sanctions.